Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau mégaphone où il sera question de photographie humanitaire. D'où vient-elle? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et aussi, qu'est-ce qu'elle nous montre pas? À l'occasion de l'exposition « Un monde à guérir » au lieu unique à Nantes qui a ouvert ses portes le 27 octobre, la rédaction de Jet s'y est faufilée. Nathalie Erschdorfer, historienne de la photographie, et Pascal Hufschmid, historien de l'art spécialisé en photographie, tous deux commissaires, nous présentent l'exposition, elle qui constitue le fruit de 2 années de recherche au cœur des collections du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Depuis le début du XXe siècle, on se rend compte que nous retrouvons des figures du travailleur humanitaire, le médecin, l'infirmière, toujours très bien caractérisé hein, dans l'image, il est reconnaissable ce personnage. Il y a la figure de la victime. La victime, c'est une victime anonyme, souvent montrée dans un groupe de personnes, donc en masse. Et puis il y a la victime innocente, et c'est la figure de l'enfant qu'on voit, l'enfant isolé, loin des adultes, et qui a vraiment besoin de l'aide. Et c'est des images, évidemment, qui nous attirent, qui nous alertent, qui touchent nos émotions. Et donc, ces personnages, nous les trouvons tout au long de l'histoire de ces archives de la Croix-Rouge.
Je suis très heurté ou perturbé par cette image d'une main blanche adulte qui vient aider un corps d'enfant noir d'une autre région du monde dans un rapport de force qui me semble très problématique aujourd'hui, mais qui n'était peut-être pas vu et perçu comme cela dans le contexte de diffusion et de production de cette image à la fin des années 80. Et donc ça, c'est une autre grande, un autre grand constat dans cette exposition et peut-être aussi un effort qu'on demande au public, c'est de se poser la question, est-ce que ma manière de regarder aujourd'hui est pertinente sur les images que je vois, et est-ce que les gens de l'époque voyaient ça différemment?
Au sein de l'exposition, vous nous avez demandé, quand on a fait la visite, de voir la différence entre le regard qu'on pouvait porter aujourd'hui en 2023 sur ces images à l'époque où elles ont été prises. Pour vous, une bonne partie de ces clichés reflète aussi une vision colonialiste de la part de celles et ceux qui les ont prises ou commanditées?
Je pense que ces images, donc des années 1850 jusqu'à nos jours, sont toujours le reflet de la culture et de la société dans laquelle et dans lesquelles elles ont été produites. Et donc elles montrent au fur et à mesure des décennies qui passent, et du point de vue institutionnel des différentes structures du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une certaine manière de raconter une histoire. C'est vrai qu'il y a énormément d'images de sauveurs blancs, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images qu'on trouve très problématiques aujourd'hui, et on a bien raison. Et la question qu'on pose souvent dans l'exposition, c'est de se dire, mais comment on voyait ces images dans les années 40? Comment on voyait ces images dans les années 20? Est-ce qu'on se posait les mêmes questions qu'aujourd'hui? Et ça ouvre la porte sur une instabilité qui est fascinante, parce que, au fond, dans cette exposition, il s'agit moins des images en tant que telles que du regard qu'on porte sur ces images-là. L'expo, elle fonctionne vraiment comme un miroir. Quels sont mes codes à moi? Comment moi je décode ce que je vois? Et comment ma manière de regarder les images est influencée? Parce que ces images, elles ne nous disent pas grand-chose, en fait, de la réalité du terrain, de l'immense complexité de l'action humanitaire, de son immense diversité. Elles nous présentent un récit, et un récit est raconté d'un certain point de vue, dans un certain contexte. Et lorsqu'on s'en rend compte, eh bien, on arrive peut-être à mieux questionner ce récit et à mieux questionner toutes les images qui nous arrivent dans la figure tous les jours. Ces images, elles ont été faites dans un cadre institutionnel avec des intentions très claires qui évoluent au cours de l'histoire, mais qui sont toujours soit de documenter une situation, soit de la montrer, d'alerter, de fédérer du soutien financier aussi autour d'une mission, soit aussi de communiquer de manière large sur l'action du CICR, de la Fédération des sociétés nationales. Et nous sommes dans un cadre très clair et construit où les images ont un but et une intention précise. Ce ne sont pas des images spontanées. Et en ce sens-là, elle nous montre une certaine vision de l'action humanitaire. Mais Nathalie Hersdorfer et moi, nous avons trouvé dans ces collections des images spontanées, des images amateurs, des images des personnes directement affectées par les conflits et les catastrophes. Et leurs images-là sont très, 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 très différentes. Elles nous montrent une réalité coexistante qui n'est pas celle de la mythologie humanitaire à laquelle nous sommes habitués.
Ça veut dire qu'il y a aussi de la place pour la vie quotidienne, pour la joie, pour les rires, même au milieu potentiellement de la catastrophe. Et que ça n'est pas pris, ça n'est pas utilisé comme code de communication par les organismes humanitaires.
Et surtout, je dirais même, c'est pas ce qu'on a envie de voir ou ce qu'on s'attend de voir. Il y a plein de moments dans l'exposition où, si je vous dis Deuxième Guerre mondiale, guerre civile espagnole, tsunami en Thaïlande, vous vous attendez à voir certaines images, vous avez certaines images qui vous viennent en tête. Mais la réalité vécue, c'est pas forcément ces grands récits mythologiques. Il y a une coexistence de plein de choses. Vous pouvez aussi faire du travail administratif sur le terrain, poireauter des heures avant que quelque chose ne se passe. Vous allez aussi aller voir un film au cinéma, vous allez aussi avoir une vie quotidienne, comme les personnes qui sont autour de vous. Et cette quotidienneté, elle existe au même titre que tout le reste. Donc il faut faire la part entre le récit, pourquoi on veut ce récit, pourquoi on s'attend à ce récit, et ce qui se passe peut-être vraiment banalement sur le terrain.
On est en 2017 et nous sommes au Nigeria, et les photographies ne sont pas prises par les professionnels, toutes ces images que vous voyez là sur le mur. Ces photographies ont été prises par les habitants eux-mêmes, et la Croix-Rouge est venue et avec ce projet d'amener des caméras jetables, des petits appareils photo jetables aux habitants eux-mêmes, et elle leur a demandé de photographier leur quotidien. Et alors on voit des enfants, on voit des gens discuter, on voit des gens qui sont en train de préparer à manger, et puis c'est le quotidien. Leur situation, elle n'est pas moins dramatique. Ils vivent dans des conditions très difficiles. Et quand on voit l'environnement, quand on les voit aller chercher de l'eau, mais en réalité, on les voit dans un rôle totalement différent.
Thank you.
C'était Remembering, une composition de Thérèse Terren. Nous sommes toujours dans Mégaphone avec une émission qui se plonge au sein de l'exposition Un monde à guérir, au lieu unique à Nantes. On se questionne maintenant sur la manière dont le récit de l'image humanitaire évolue. Y a-t-il une évolution notable en fonction des progrès techniques ? Nathalie Herschdorfer nous en dit un peu plus.
Entre les photographies prises au 19e siècle qui demandaient des très longs temps de pause, hein, au début de la photographie c'est une demi-heure de temps de pause, donc c'est forcément des gens qui sont immobiles, qui sont devant l'appareil photo. Et puis après, au cours du 20e siècle, on voit avec le développement des équipements qui vont, tels que Kodak ou le Leica ou le film, va nous permettre à chacune et chacun de prendre des images simplement en appuyant sur le bouton et puis en envoyant notre pellicule au laboratoire. Et aujourd'hui, on le sait très bien, avec le téléphone, c'est d'autant plus facile puisque ça ne coûte même plus. Auparavant, il fallait acheter de la pellicule et aujourd'hui, on peut produire des centaines d'images sans que ça nous coûte un centime, mis à part l'achat même du téléphone. Donc oui, c'est une histoire qui suit l'histoire de la photographie, et notamment au niveau technique. Mais tout de même, on se rend compte que c'est une histoire qui se répète. Et ça, c'est aussi une chose, même si on est capable de prendre des images instantanément et de les diffuser instantanément partout dans le monde, en réalité, c'est des images qui restent très contrôlées. La Croix-Rouge elle-même, elle n'a pas intérêt à faire en sorte que ces images soient diffusées à tout va. Et donc, on se rend compte qu'à un moment donné dans l'histoire, on a enlevé les caméras des mains des humanitaires parce qu'il fallait mieux contrôler les images, parce qu'il faut contrôler ce que les images nous disent, parce qu'une image, elle peut dire beaucoup de choses, en fait. Et évidemment, on a aussi réalisé que ces images, elles sont accompagnées de légendes très précises, très écrites. Autant on réfléchit aux mots qui accompagnent les images, autant on réfléchit à ce que l'image, ce qu'elle nous montre dans le cadre, soit aussi pas trop compliqué et qu'on, de manière assez claire, on puisse avoir un message direct qui ne prête pas trop à confusion. Et on se rend compte que les images, eh bien, en effet, pendant ces 150, 160 ans d'archives photographiques, elles disent plus ou moins toujours la même chose. Il y a l'humanitaire, c'est ce moment T qui arrive sur le terrain, qui est au moment où l'aide est apportée. C'est pas avant que l'aide arrive, c'est pas après que l'aide soit arrivée, c'est le moment même où l'humanitaire rencontre les victimes. Et c'est ce moment-là qu'on veut valoriser, c'est ce moment-là sur lequel il est important de communiquer, c'est ce moment-là qu'on souhaite aussi documenter pour l'histoire.
C'est un camionneur du CICR et il a fait un album qu'il a laissé à sa famille, certainement dans un processus de compréhension de ce qu'il avait vécu et vu du terrain. Mais donc on le voit partir de Genève avec son camion, puis ses potes, collègues, et ils partent en mission en Allemagne. On est à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale, et puis ben, il est passionné de mécanique, donc il y a des photos de son camion avec ses potes, il y a des photos de paysages. Après, ils arrivent en Allemagne, puis on commence à voir des images de bâtiments détruits et de villes détruites. Puis ensuite, ils font une pause, donc ils vont se baigner, ils font un pique-nique. Et après, sur la page suivante, ben, il y a encore un bâtiment détruit, et ensuite, il y a un camp de concentration, il y a des corps morts, puis ensuite, il y a de nouveau un pique-nique, puis ensuite, il y a encore un camp de concentration. Et ça nous semble choquant de voir ça. Comment est-ce qu'on peut aller faire un pique-nique ou se baigner alors que sur l'autre page, il y a des corps morts et un camp de concentration? Et là, ben, là, on rentre dans le backstage, c'est-à-dire dans justement le continuum vécu de la mission et du terrain. Ben ouais, vous vous levez le matin, vous allez faire votre boulot, vous avez des moments de pause, vous devez manger, vous devez aussi vous détendre, vous n'êtes pas un super-héros, vous êtes aussi faillible. Et d'avoir ce récit visuel de moments que nous, on voit à travers des images iconiques, c'est très, très fascinant et assez perturbant. Et c'est très vrai encore aujourd'hui. Donc tous les humanitaires qui sont sur le terrain, ils sont toujours soumis à cette pression quand ils reviennent ou quand ils racontent, de dire, bon, est-ce que je leur dis vraiment ce que j'ai vécu ou est-ce que je leur dis ce qu'ils ont envie d'entendre? Et je me souviens d'un délégué qui était en Syrie, qui est venu voir l'expo, puis qui m'a dit « Ouais, merci Pascal, parce qu'enfin, on raconte un peu ma journée de travail ». Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et il m'a sorti son téléphone portable, il m'a dit, ben, tu vois, j'étais en Syrie, j'ai pris des photos de bâtiments détruits, donc bâtiments détruits, puis ensuite on passe dans le flux des images, puis il y a un petit bébé. Bâtiment détruit, petit bébé, avec plein de gens qui sourient, bâtiment détruit, bébé, puis je dis, mais c'est quoi ce truc? Il me dit, ben, j'étais sur le terrain, puis en même temps ma nièce elle est née, puis j'ai reçu des photos. Et ça c'est vrai aussi, c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas.
Chez beaucoup d'humanitaires qui ont visité ou qui visitent cette exposition, il y a aussi un soulagement d'être dans un espace qui raconte une histoire beaucoup plus complexe et proche de leur vécu quotidien. Et cette exposition, c'était aussi ma manière à moi de rendre hommage à l'immense complexité de leur travail qui ne correspond pas forcément à la représentation de ce travail et à l'image qu'on s'en fait. Et c'est pas un jugement ici des intentions institutionnelles ou des différents moments de l'histoire, parce que voilà, enfin, ce sont des institutions qui communiquent, qui ont des buts précis, mais c'est aussi dire qu'il y a un hors-champ, et que ce hors-champ-là, il est important. Il est aussi déterminé par d'autres facteurs qui sont pas liés à la communication, qui sont par exemple l'évolution du droit à l'image, comment photographier une personne affectée en 2023 ou en 1923, c'est très très différent d'un point de vue du droit. Ce sont des images qui évoluent aussi en fonction des conditions de sécurité dans lesquelles les images sont prises. Vous ne pouvez pas juste prendre n'importe quelle image, n'importe comment, dans un conflit ou sur le terrain. Votre vie peut être en jeu. Donc il y a beaucoup, beaucoup de facteurs sociaux, culturels, médiatiques, communicationnels qui rentrent dans le façonnage des images ici. Et c'est bien ce qu'on a voulu montrer, c'est que ces images sont tout sauf stables.
Et sur l'époque actuelle, aujourd'hui, les questionnements qui agitent les organismes humanitaires sur leur usage actuel, 2023, 2024, des images, toujours la figure de la victime pour lever des fonds, jusqu'où on montre l'horreur ou pas, enfin, qu'est-ce qui agite en ce moment, où se porte le point de réflexion?
Alors clairement, ce qu'on a vu, Nathalie Herstorfer et moi, c'est une grande évolution dans les différents paradigmes pour arriver aujourd'hui à des images qui sont très différentes de ce qu'on pouvait voir il y a 100 ans. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne veux pas parler ici au nom des organisations, mais clairement, il y a une attention envers la dignité de la personne représentée et de son droit à l'image qui est au centre de la production même de ces images. Une même réflexion portée aussi envers le travailleur ou la travailleuse humanitaire en personne. Donc, on ne verra plus des images d'horreur, d'affliction, comme on pouvait le voir il y a 100 ans, dans un autre contexte du droit à l'image. Mais moi, j'ai envie de dire tant mieux, quelque part. Parce que ces personnes qui sont représentées dans des moments T de leur vie qui sont terribles, eh ben, leur identité ne se résume pas à ce moment T. Et au moins, là, il y a une assurance que la dignité de leur personne et de leur droit à l'image est respectée. Et c'est peut-être aussi ce qui fait une grande différence entre le genre qu'on essaye d'identifier ici, qui est celui de la photographie humanitaire, et le genre du photojournalisme, où le droit à l'information va peut-être prévaloir et on va avoir d'autres réflexes. Mais là, on n'est pas dans ce contexte-là. On est dans un cadre régi par le droit international humanitaire et les images le reflètent.
La montagne entre Homs et Hama. Des photos le montrent en tête de cortège au milieu des autres manifestants. Il est arrêté une première fois et reste 18 jours en prison. Il est arrêté une seconde fois et il reste sans nouvelles de lui pendant plus d'un an. Un jour, on leur annonce qu'ils doivent verser de l'argent s'ils veulent de ses nouvelles. Ils paient. On leur dit qu'il est mort, qu'il a été enterré dans une fosse commune, qu'ils ne pourront pas récupérer son corps. Elle me tend une clé USB et me dit qu'elle a préparé une sélection de photos parmi celles qu'elle a fait scanner avant de quitter la Syrie. Je les ouvre sur mon ordinateur portable et découvre le récit en images d'un amour magnifique. Elle me demande si je veux encore du café. Elle me dit qu'elle a fui la Syrie avec ses deux sœurs juste après la mort de son père, un opposant politique.
Moi,
j'ai plutôt une question portée sur la scénographie de l'exposition, parce que finalement, concevoir une exposition sur la photographie, c'est aussi une manière de construire et apporter un regard. Qu'est-ce qui s'est joué dans la fabrique de cette scénographie ?
C'était important de montrer la quantité, les archives photographiques que nous avons analysées comptent plus d'un million d'images. Donc qu'est-ce qu'on fait dans une exposition pour raconter un million d'images ? Il ne s'agissait pas de garder un tout petit nombre, parce qu'au fond, la crainte, c'était de repartir dans ces images iconiques qu'on a vues et revues. Pour nous, c'était plutôt l'idée de montrer, bon, il y a une masse d'images, donc on a cherché, d'un point de vue scénographique, à les traiter pour donner cette idée de la masse. Par exemple, la masse, c'est pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, où on a un grand papier peint, où il y a beaucoup d'images qui sont là, les unes à côté des autres, un peu en vrac, sur un mur. Mais la masse, c'est aussi un écran qui représente les images prises aujourd'hui, qui se trouve à la fin de l'exposition, donc on a l'époque contemporaine, puisque ce flux continu d'images, il est incessant. Donc là, les images, elles passent en quelques secondes et il ne s'agit pas tant de mettre l'accent sur une image unique, mais de montrer le flux. Et puis, il y a dans l'exposition des focus que nous avons voulu, où ces focus, on essaye de présenter cette histoire de la photographie humanitaire et de montrer un point d'attention. Le cœur de l'exposition, c'est l'agence Magnum, notamment, bien connue dans l'histoire de la photographie, puisque l'agence Magnum réunit des grands photojournalistes. Et là, on est clairement dans des images fortes qui sont puissantes, bien construites, visuellement très convaincantes. Et là, en effet, le parti pris a été de les accompagner d'une musique aussi, qui amène une sorte de dramaturgie. Donc oui, la scénographie, elle aide aussi le visiteur, non pas à marcher d'un même pas devant chacune des cimaises, mais d'avoir des points d'arrêt, et puis des moments qui sont peut-être un peu plus dramatiques, d'autres sur lesquels on passe plus rapidement, mais qui permettent de changer le rythme aussi et l'attention du visiteur. Parce que ce qu'on peut aussi dire à la fin, c'est comment faire pour qu'on réfléchisse à ces images, parce qu'on est souvent indifférent. Avec une telle quantité d'images qui occupent les médias en permanence, et on le voit très bien aujourd'hui avec l'actualité, eh bien, qu'est-ce qui va encore nous toucher ? Comment faire pour ne pas qu'on passe très très vite ? Et c'est bien cette stratégie-là qui est aussi au cœur de la pratique des photographes et aussi au cœur de la pratique de l'utilisation de la photographie pour l'institution elle-même de la Croix-Rouge et aussi au cœur de notre pratique en tant que commissaire d'exposition. Comment faire pour que les gens ensuite repartent de l'exposition avec une réflexion autour de l'utilisation de ces images ?
Un monde à guérir, une exposition à découvrir au lieu unique jusqu'au 7 janvier 2024. Merci à Nathalie Erschdorfer et Pascal Hofschmidt et à l'équipe du lieu unique. Cette émission est à retrouver en podcast sur jetfm.fr, rubrique Mégaphone. Dans un instant, Chemin d'Afrique. Belle soirée sur JetFM.
Mégaphone !
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.